Je m'appelle Laurie Rousseau-Neptune. Je travaille comme astronome résidente pour le télescope Canada-France-Hawaï. Du côté de mon père, ma famille est d'origine Innu. C'est dans le bois que j'ai vraiment développé mon sens d'observation et même ma curiosité scientifique.
Vous venez d'entendre la voix de Laurie Rousseau-Neptune. L'Office national du film Canada vient de lancer la série documentaire Étoiles du Nord sur sa plateforme de diffusion des films en ligne. Étoiles du Nord retrace en toute humilité, mais dans un cadre absolument spectaculaire, le parcours de cette femme, venue du Québec et future professeure en astronomie à l'Université de Toronto.
Si on a plus de femmes qui sont là pour enseigner aux étudiantes, je suis persuadée que ça a un effet à long terme et qu'on va pouvoir faire notre place en astronomie, en physique et dans d'autres domaines des sciences.
Nous avons rencontré Laurie Rousseau-Neptune à l'aune de sa rentrée en tant que professeure adjointe à l'Université de Toronto et dont les recherches vont pouvoir débuter au prestigieux Institut Dunlap d'astronomie et d'astrophysique. Ensemble, nous avons discuté de ses recherches déjà, des efforts qu'il a fallu faire tout au long de son parcours, du Québec à l'Observatoire du Mont Mégantic, de Hawaï sur le sommet du volcan Mauna Kea jusqu'en Ontario à l'Université de Toronto. Elle nous a ensuite parlé du tournage de la série réalisée avec Patrick Bossé et de ses 5 épisodes au cours desquels on en apprend autant sur un parcours de femme inspirante que sur notre propre univers. Et enfin, elle est revenue sur son actualité en tant que chercheuse, à la pointe des découvertes en astronomie et de ses projets à venir à l'Université de Toronto pour les années futures.
Présentement, je suis encore astronome résidente pour le télescope Canada-France-Hawaï, mais je commence un nouveau poste à l'Université de Toronto pour le département d'astronomie et d'astrophysique, aussi conjointement avec l'Institut Dunlap pour l'astronomie et l'astrophysique. Et donc, je serai assistante professeure à partir du 1er septembre prochain.
Est-ce que c'est une évolution de passer de Hawaï à Toronto?
Ouais, ben en fait c'est vraiment deux postes différents. Donc l'astronome résidente, c'était un poste idéal pour moi là, quand j'ai commencé à travailler, c'est un peu mon poste de rêve là après être sortie du doctorat parce que c'était les mains dans les instruments, les mains dans les données, les mains aussi pour aider la communauté scientifique à utiliser le télescope. Donc tous les volets de cet emploi-là étaient parfaits pour commencer à apprendre de plein de gens différents aussi. Et maintenant, c'est une évolution naturelle parce que je veux travailler avec plus d'étudiants. J'ai un projet de recherche là, qui va encore prendre des années à dépouiller les données. Donc, d'avoir cet environnement-là avec les étudiants, ça va favoriser mes recherches. Puis aussi, je veux développer mes propres instruments astronomiques qui vont aller dans des futurs télescopes maintenant que j'ai été formée. Donc, j'ai mes petites idées là pour améliorer la qualité des données puis pouvoir voir plus loin dans l'univers.
Et l'Université de Toronto, elle est réputée pour ce domaine-là ou est-ce qu'il va falloir dépoussiérer certains endroits? On se situe comment à Toronto dans la recherche?
Oui, en instrumentation astronomique, l'Université de Toronto est très, très bien située là, internationalement. Puis l'Institut Dunlap, entre autres, a vraiment une vocation pour l'instrumentation astronomique. Donc, mon mandat va vraiment être de développer quelque chose de nouveau là-bas. Puis j'espère que ça va justement attirer des étudiants là qui ont aussi les idées un peu folles comme moi et qui veulent expérimenter avec des nouvelles technologies qui vont bien sûr faire repousser nos capacités.
Et petite question, donc toi t'es une francophone née à côté de Québec, t'as fait tes études à Montréal et ensuite t'as travaillé à Hawaï. Avec quelques retours à Montréal, si j'ai bien compris, de
oui,
temps
à
en temps.
Donc à l'Université Laval à Québec. Oui, j'ai fait mes études graduées et même sous-graduées, donc baccalauréat, maîtrise, doctorat, tout à Québec. En astronomie, souvent les gens disent ah c'est mieux de voyager justement, de faire une maîtrise ici, un doctorat là. Moi, j'ai tenu le coup à Québec et ça m'a vraiment été utile parce que le projet là sur lequel je travaillais était justement de travailler sur un prototype qui était à l'Observatoire du Mont Mégantic, donc tout près de la frontière américaine, mais toujours au Québec. Et j'ai eu accès donc à cet observatoire-là, qui, malgré sa plus petite taille comparée à ceux d'Hawaï, la plupart de ceux d'Hawaï, est un endroit unique pour former les étudiants, parce qu'on peut arriver là avec notre prototype, prendre des données, et on a accès, c'est ça, à tout ce matériel-là, puis le support aussi du personnel qui travaille là. Et ça m'a valu des années de données et de temps sur le ciel. Ça m'a permis de construire mon expertise. Et c'est ça qui a fait que par la suite, j'ai pu obtenir un poste à Hawaï et travailler pendant 6 années là-bas. Donc, ça a été un bon choix pour moi de faire ce parcours-là.
Et donc là, c'est quand même une terre nouvelle, le Toronto, pour toi. Est-ce que tu sens qu'il y a un changement?
Oui, c'est sûr que c'est différent, mais je suis contente de revenir au Canada. Je suis plus près de ma famille. Là, je suis à un seul vol d'avion de ma famille ou un voyage de train. et avec ma fille, justement, qui a tout près d'un an, je suis très contente qu'elle puisse avoir accès à ses grands-parents et le reste de la famille. Oui, pour moi, c'est bien. Puis c'est aussi, c'est les saisons, le territoire. Les gens doivent se dire, mais comment ça se fait? On peut pas s'ennuyer de l'hiver, mais je peux vous le dire que oui, je m'ennuie de la neige. Et j'espère qu'on va avoir un hiver rigoureux.
Alors, c'est marrant, moi, je te parle un peu comme si je te connaissais parce que j'ai eu la chance, je viens de voir les 5 épisodes de la série Étoiles du Nord. Donc, toi, tu ne me connais pas, mais j'ai passé plein de super moments avec toi. Qu'est-ce que cette série... plutôt, ma question, ça va être comment elle est née, parce que tu es une femme qui est quand même très occupée. À l'époque du début du tournage, tu es déjà à Hawaï. Comment elle est née? Est-ce que c'est ton initiative? Est-ce que c'est celle de ton co-réalisateur? Est-ce que...
Oui, donc, Patrick Bossé... le réalisateur de la série m'a contacté. Écoute, ça date déjà de 2018. Fait déjà un bon moment. Puis à l'époque, il pensait peut-être faire un projet sur les débris spatiaux. Il m'avait entendu parler à la radio. Il trouvait que j'avais une façon de vulgariser la science, une énergie qui était différente. Puis il avait pensé à moi. Donc même si c'est pas mon domaine, hein, les débris spatiaux, je lui ai accordé une interview Zoom, puis on s'est parlé, puis ça l'a bien cliqué. On avait des idées similaires, puis il y avait aussi plein de questions sur mes recherches. Puis au fil du temps, avec la COVID aussi, on s'est rencontrés sur Zoom assez récurremment. Puis là, on a construit cette idée-là de présenter la recherche en astrophysique, présenter la contribution des femmes aussi en astrophysique. Et dans la série, si les gens veulent bien aller la regarder, j'espère que ça va justement piquer leur curiosité, on présente justement 3 générations de femmes, moi bien sûr, une stagiaire qui a travaillé avec moi à Hawaï, mais qui vient du Québec, et ma directrice de recherche d'études graduées, Carmel Robert, qui est à l'Université Laval. Donc, c'est 3 générations de femmes-là qui font une différence en sciences. Et c'est un message important qu'on veut passer, hein. Pas juste pour les femmes, mais aussi pour les gens de tous horizons, et aussi pour les gens des Premières Nations. Donc, de faire de la science, avec toutes les perspectives qu'on a, notre façon de penser, est légèrement différente, et donc ça fait que on va aller fouiller le questionnement scientifique de façon différente, et bien souvent faire des découvertes qui n'auraient pas été faites autrement. Donc, la série est là pour ça. Hein, j'espère qu'il y a des jeunes filles, des jeunes femmes qui vont la regarder et qui vont se dire « Ah ben, la science, c'est une place pour moi. J'ai aussi des idées, j'ai cette curiosité-là et je peux voir justement ces modèles-là qui ont été dans le domaine avant moi et qui ont permis justement de faciliter là, la place des femmes en science. »
Oui, il y a un côté militant féministe, mais je trouve aussi que il y avait un côté qui pouvait toucher des personnalités introverties ou plus proche de la nature, des profils qu'on n'associerait pas forcément avec des astronomes ou des chercheurs. Et c'est, oui. Moi, c'est ça qui m'a touchée. C'est vraiment... voilà, t'es pas une personnalité exubérante et on s'attache très fort et on peut vraiment s'identifier à travers ce portrait très intime d'une chercheuse de presque l'universel. Donc, c'est ça qui était touchant, moi, j'ai trouvé. Il y a aussi quelque chose... À un moment donné, j'ai froncé les sourcils et tu viens de me répondre un peu plus tôt, parce que tu dis « j'ai eu la chance, j'ai travaillé à Laval, et puis ensuite j'ai eu la chance d'avoir un poste à Hawaï qui était mon rêve, et puis j'ai eu la chance... » Et tu dis beaucoup « j'ai eu la chance », je me suis dit « c'est pas possible, c'est pas de la chance, elle a travaillé », et tu viens de le dire en disant « j'ai fait plein de... » Oui, voilà, je voudrais aussi le dire, je pense. C'est quand même beaucoup de travail pour en arriver là, aujourd'hui, à avoir une équipe de recherche à Toronto.
Oui, puis ça prend des années aussi pour se bâtir une confiance, hein. Quand je me rappelle la jeune Laurie qui commençait à faire de la science, j'avais beaucoup de pression sur mes épaules parce que j'étais la seule étudiante pendant plusieurs années d'ailleurs aux études graduées, mais au moins j'avais ma directrice. Ça c'est sûr que ça l'a libérée un peu là, de cette pression-là. Malgré tout, on se pose des questions. On se demande, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que c'est vraiment une place pour moi? Puis c'est le syndrome de l'imposteur, hein, qui appelle en science. Et ça, c'est toujours présent. Et je l'ai vécu, même encore aujourd'hui, je dois le combattre, la petite voix intérieure, mais comme tu le dis, hein, on regarde ce qu'on a fait, le parcours qu'on a fait, ce qu'on a accompli, puis on peut en être fier. Puis c'est ce que je veux aussi partager avec les étudiantes qui vont venir travailler avec moi. Je sais c'est quoi. Et c'est des sujets que, malgré que la plupart vont pas nécessairement ouvertement aller en parler, ben moi, c'est quelque chose que je vais aller un peu piquée, pour m'assurer que cette petite voix intérieure-là suit la même évolution positive. Et puis qu'éventuellement, ouais, ce qu'on entend de soi-même est une image beaucoup plus douce. Puis qu'on a un meilleur juge aussi de ses capacités, puis un meilleur juge de tout ce qu'on a accompli.
Et tout ça, je me dis aussi, tu vas le faire en anglais? Est-ce que tu vas aussi continuer à... Parce que la série est en français, et je trouve que c'est aussi un second acte presque militant de continuer à parler français et de produire du savoir. Voilà, c'est du savoir vulgarisé, mais comment tu gères les deux langues dans ton travail et puis dans le cadre de cette série?
Oui, donc dans mon travail de tous les jours, il y a du français énormément. Même à Hawaï, parce qu'on était le télescope Canada-France-Hawaï, donc il y a des Français de France, et il y a aussi des francophones du Canada, du Québec, de l'Ontario, de l'Alberta, donc des francophones un peu partout, qui se retrouvent là-bas. Et je pense que c'est un atout de parler français dans un milieu scientifique international. Ça permet aussi de comprendre parfois des différences de façon de s'exprimer, de différences culturelles aussi. Il y a vraiment une belle diversité à parler plusieurs langues. Puis moi, je suis une grande fan des expressions québécoises, puis aussi d'apprendre des nouvelles expressions, puis de la richesse du langage. Et en science, c'est très, très important de bien s'exprimer, de comprendre aussi comment les gens comprennent ce qu'on dit. Et de le faire justement avec une finesse qui vient justement de la compréhension des différentes cultures.
Et donc là, tu vas donner des cours en anglais par contre?
Oui, oui, mais si j'ai des étudiants qui parlent français et qui veulent bien parler français avec moi, ça va me faire plaisir de répondre à leurs questions en français avec une traduction en anglais.
Et pour revenir à la série, est-ce que, puisque tu vulgarises, est-ce que tu saurais vulgariser un peu les étapes que vous avez traversées après l'écriture pendant la période de COVID et donc à distance? Comment ça s'est déroulé?
Ouais, écoute, moi qui viens pas hein, du domaine du cinéma, je peux essayer de faire une description qui vient de comme ma perspective de scientifique qui a partagé, qui a participé à cette aventure-là. La partie là où on a comme construit l'idée a vraiment pris plusieurs rencontres, vraiment plus sur plusieurs mois, même je dirais années. Et puis ensuite, le projet a été proposé à l'ONF et a été accepté. Donc, ça a été une belle réussite de construire ça. Puis ce qu'on a voulu faire, puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a un format de 5 mini-séries, c'est qu'on voulait parler des différents volets de la science. On a un premier épisode hein, qui est focusé sur l'observation, donc où les gens vont me suivre d'ailleurs à la chasse à l'orignal, où on parle de comment le sens de l'observation et aussi le savoir ancestral est important pour comprendre justement comment regarder les détails de la nature pour mieux la comprendre. Puis, mais l'astronomie, c'est une science qui est basée sur l'observation, hein, donc c'est une belle façon de commencer. Et puis, à la même la série, on explique plein de concepts scientifiques qui suivent d'ailleurs un peu les lignes de ce qui doit être enseigné au niveau de l'école secondaire. Donc, pour les professeurs qui voudraient en parler à leurs étudiants, mais qui n'ont pas nécessairement les connaissances, ben la série est un outil unique, justement, pour aborder le sujet de l'astronomie, avec plein de vidéos graphiques qui expliquent des concepts qui, parfois, peuvent sembler compliqués, mais qui, en même temps, sont tellement simples qu'on voit de belles images. Et on parle de l'évolution de l'univers, la participation de la formation des étoiles dans tout ce processus-là. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde peut se rattacher, peut connecter. Et puis, à même la série, on a aussi voulu montrer la complexité de la science. Ça a plusieurs volets. Et là, je parle pas de complexité mathématique du tout. Je parle du fait que la science, c'est riche de la culture. C'est riche aussi de la société hein, qui la conduit. Puis, je dis souvent, moi, je fais le meilleur travail du monde. Tu sais, je suis curieuse. Je réponds à des questions que tout le monde se pose. Et quand j'en parle, les gens sont intéressés. Donc, on voulait montrer ces différents volets-là, comment la culture influence la science, comment c'est important de comprendre le contexte, et d'ailleurs, surtout à Hawaï, avec les télescopes qui sont sur un site sacré, le Mauna Kea, et donc il y a une collaboration et une superposition d'un milieu culturel très significatif et d'une réserve scientifique qui a un but purement là de faire avancer la science.
Oui, j'ai trouvé que c'était un très beau moment quand on mène ta stagiaire au musée et que la commissaire d'exposition explique un peu le côté sacré du Exactement. Volcan et qu'elle demande à la jeune chercheuse de garder ça à l'esprit quand elle va faire son travail. C'est très simple, mais très, très explicite. Et puis je me demandais justement, les graphismes sont magnifiques, les animations en 3D, celles qui expliquent par exemple Citel ou les galaxies. Et je me dis, il y a forcément, c'est très difficile de faire de l'animation, ça coûte très cher. Comment toi, ta rigueur scientifique a accepté, a probablement dû faire des compromis sur le rendu. Est-ce que le compromis est allé assez loin ou est-ce que tu es fière des résultats? Est-ce que tu penses qu'ils sont scientifiquement corrects?
Tout à fait. C'est un travail incroyable, hein, plusieurs itérations qui ont amené au produit final. Et je dois aussi souligner, tu sais, l'équipe technique derrière tout ça là, qui a fait un travail exceptionnel, qui faisait des ébauches et sur lequel on travaillait là pour améliorer justement pour la justesse scientifique, mais aussi il y a une couche supérieure, hein, d'analyse qui est faite par même des gens directement dans le milieu de l'éducation, des professeurs qui ont participé et qui ont regardé justement les contenus et qui nous ont donné un retour là incroyable et très très d'une grande valeur ce qui a permis à la série de s'ajuster là puis d'être vraiment au point pour tout public là. Ça c'est certain, les jeunes familles, les plus jeunes, mais aussi de tous les horizons, en fait. Je pense que ça va plaire à tout le monde.
On va à Hawaï, on va dans le backcountry canadien. Ça fait voyager et les images sont très très belles. Il faut saluer le travail de la cinématographie aussi. Et donc, tu disais que c'était aussi un travail que t'espérais voir tomber dans les mains des enseignants du secondaire. Est-ce que t'as des espoirs secrets sur là où ça va atterrir, les effets que ça peut faire sur le public, mais pour toi aussi?
Oui, ben écoute... Moi, je me remets encore dans mon cœur de petite fille qui savait pas encore que je pourrais être astronome. Donc, s'il y a une chose que je veux que la série fasse comme retomber, c'est donner justement cette petite étincelle-là chez des jeunes filles ou femmes. Et n'importe qui pensait pas nécessairement que la science, c'était une place pour eux, mais qui ont le cœur d'un scientifique et qui vont peut-être le découvrir en regardant la série. Donc, j'ai espoir de voir des nouveaux petits scientifiques qui viennent participer à cette aventure-là avec moi.
Et c'est quoi la prochaine aventure pour toi?
Oui, je pense que je voyais dans le futur, d'ailleurs, quand on a filmé la série, parce que je le mentionne dans un des épisodes, que j'aimerais construire un appareil encore plus puissant qui va nous permettre de faire de belles découvertes et voir l'univers d'une autre façon. Et c'est ça que je vais faire à l'Université de Toronto et l'Institut Dunlap. Donc, je vais commencer mon propre laboratoire d'instrumentation astrophysique. Et donc, on va construire deux nouveaux prototypes d'instruments qui vont regarder le ciel différemment.
Magnifique. Et t'as un temps limité pour ça? Tu sais combien de temps t'as le droit de fouiller et d'être à l'Université de Toronto?
Oui, donc oui, moi je suis dans ce qu'on appelle les tenure track, hein, pour devenir professeur vraiment complet. Donc je suis ici pour un minimum de 6 ans pour parcourir ces options là et j'ai déjà un projet assez bien ficelé là qui est d'ailleurs basé sur l'instrument Citel que je supportais à Hawaï et qui utilise des nouvelles technologies émergentes. C'est ça qui va d'ailleurs nous permettre de repousser un peu nos capacités.
C'est l'intelligence artificielle, les technologies émergentes?
Non, mais on va l'utiliser dans l'analyse des données, ça c'est certain, mais de façon plus physique, là, ce qui est utilisé dans l'instrument, les éléments, donc c'est peut-être pas nécessairement pour le commun des mortels, mais les détecteurs, donc les instruments qu'on utilise ont à la fin là, un détecteur qui détecte la lumière, hein. Donc je vais utiliser un nouveau type de détecteur. Je vous dirai pas le petit nom parce que ça vous dira rien, mais ces détecteurs-là ont la capacité de compter chaque photon, chaque petite particule de lumière, une par une, et de connaître un peu leur énergie, mais aussi très précisément leur temps d'arrivée sur le détecteur. Donc, ils ne produisent pas des images, mais plutôt des listes de particules. Et donc, c'est ça qui va nous permettre un peu d'aller plus loin. Et j'ai une autre stratégie là qui va utiliser des optiques sur lesquelles on va graver des nanostructures, des structures à très très petite échelle, qui nous permettent de donner des nouvelles propriétés à des lentilles ou différentes pièces optiques. Donc, avec une combinaison de ces deux nouvelles technologies là, on va vraiment aller repousser les capacités d'instruments qui ont des composantes similaires là à Citel à Hawaï.
Oui, ça donne presque matière à faire une autre série de plusieurs épisodes. Mais merci. Alors, ça devenait très technique, mais du coup, ça donne envie d'aller déjà regarder la première partie de la série qui
oui,
sortira.
Ça, ou... ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de détecteur quantique dans la série. on a gardé ça vraiment à un niveau qui va plaire à tout le monde. Puis je pense que, comme tu le mentionnais, tu sais, c'est les images, c'est de se plonger un peu dans notre univers. Puis comme je le dis dans la série, on fait partie de l'univers, mais l'univers il fait aussi partie de nous. Donc, de se plonger dans Étoiles du Nord, c'est un peu justement de se plonger dans ce questionnement-là.
Étoiles du Nord, 5 épisodes de 15 minutes, harmonieusement écrits et dont les images magnifiques n'en rendent pas moins la série instructive. C'était un reportage de Marine dans le cadre d'Initiative Journalisme Local sur Choc FM 105.1.